RFI et France 24 présentent Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Café des Sports avec aujourd'hui un véritable plateau de lions. Le premier est non seulement indomptable, mais surtout incontrôlable. C'est l'unique. Rémi Gonneau. Bonjour Rémi, comment ça va ?
Ça va très bien. Vous avez dit un lion incontrôlable parce que justement, je sors du pays des lions indomptables.
Vous aimez
quand
ça.
Le lion devient domptable, il n'est pas différent d'un mouton.
Le deuxième est tout autant indomptable, mais je ne crois pas qu'il soit un mouton. Il est surtout champion d'Afrique, capitaine du Cameroun, sacré à la CAN 2017, monsieur Benjamin Mukonjo. Comment ça va, Benjamin ?
Bonjour Eric, ça va très bien.
Tout juste arrivé d'Yaoundé, justement.
Oui, j'ai assisté à la victoire des lions indomptables qui ne se sont pas fait dompter.
Exactement, on va en parler, vous allez voir. Des lions indomptables. Mon troisième invité est un lion plein de sagesse, on va dire, mais il sait sortir les crocs quand il le faut, notamment au Café des Sports.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bon, le lion de Belfort, c'est pas très loin de là où j'ai
Exactement.
Suivi cette semaine internationale, puisque après le Stade de France, j'ai mis le cap à l'Est de la France. Et donc, le lion de Belfort, bien connu aussi, est sacrément bagarreur.
J'ai une passion des titres, vous êtes en coq.
Bon, le troisième invité est un petit chat ébouriffé comme ça, il a l'air, mais ne vous y fiez pas, Frédéric Suteau peut rugir à tout moment, surtout quand il s'agit de parler des
de
auditeurs.
Lyon.
Voilà,
la
c'est très entouré.
Sur le Facebook Live, ils sont là au rendez-vous, ils ont regardé le menu. Je veux pas mettre le bazar dans votre émission, Eric, mais Herman nous dit « je vois pas le Real et le Barça au programme aujourd'hui ». Mais je sais que le Real et le Barça, on va quand même en parler avec Rémi et Xavier.
Bon. On en parlera toujours d'une manière ou d'une
façon,
autre, évidemment, ça viendra. Mais aujourd'hui, le sommaire, eh bien, il est le suivant. On va parler de la sélection camerounaise. Justement, où va-t-elle ? Alors que le conflit entre Samuel Eto'o et Marc Brice s'invite de plus en plus dans la tanière, le capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar a dû prendre la parole cette semaine pour demander l'union sacrée. L'Argentine est-elle actuellement la meilleure équipe du monde ? Oui, on peut se poser la question. L'Albicéleste a écrasé le Brésil mardi à Buenos Aires. C'était sans la Pulga, l'habituel maître à jouer argentin. La Messi-dépendance, du coup, est-elle terminée ? Pour l'Argentine, la question sera posée. Autre question, le Paris Saint-Germain doit-il quitter le Parc des Princes ? Son départ de la capitale vers un nouveau stade plus grand en banlieue parisienne semble se préciser, un choix qui divise évidemment les amoureux du Paris Saint-Germain. Et puis nous finirons en beauté, évidemment, avec vos traditionnels cartons de la semaine, un café des sports élaboré par David Finzel et Mathieu De Gueldre pour la partie radio, les moyens vidéo étant assurés par Swell Kedir et Steven Esley. On ouvre la cage au lion, on part au Cameroun. C'est l'image de la semaine, le capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar lisant une déclaration solennelle à la veille du match face à la Libye, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tous ses coéquipiers autour de lui avec ce message que cesse la guerre entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le sélectionneur national du Cameroun, Marc Brice. Ceci pour le bien de la sélection. Un appel étonnant que je vous propose d'écouter.
Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue l'entente et l'unité.
Benjamin Moukandjo, c'est rare, non, ce genre d'image, surtout du côté camerounais. Alors, il y a eu des conflits, on sait, du côté de la tanière des Lions Indomptables, des problèmes de primes, des grèves, ouais. Tutti quanti. Mais est-ce qu'une prise de parole comme cela, le capitaine avec toute l'équipe derrière, face caméra, c'est de l'inédit ou vous avez déjà connu ça?
Moi, je ne l'ai pas connu. C'est vrai que j'ai connu aussi pas mal de crises.
Ah, entre, vous avez été capitaine, ça doit être un travail de tout
même
repos.
Même pendant que j'y étais aussi. Après, vous savez, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. On a peut-être des approches différentes. Certains trouveront que l'approche, elle est pas bonne. D'autres diront que c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, ce qu'il faut surtout souligner, c'est cette équipe-là. Il faut surtout penser à cette équipe. Parce que c'est un conflit qui dure quand même pendant des mois. Quelque part, les résultats qui ont été positifs aujourd'hui, parce qu'ils sont encore en course pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, ils sont qualifiés pour la CAN, ont peut-être fait oublier ce côté-là. Mais vous savez, pour parler avec certains d'entre eux, c'est quand même une situation qui est difficile. Quand on se prépare à la sélection, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là où on va rejoindre la tanière. Et je crois que quand on est des grandes personnes avec des responsabilités, à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table. Parce que l'équipe nationale, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit nous rassembler. On ne peut pas se permettre de préparer des grandes compétitions et des matchs comme ça avec autant de déchirements de part et d'autre. Moi, je n'aime pas prendre position dans des conflits. Je trouve qu'on est des humains, on est des grandes personnes. Il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour le bien de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe nationale. Les victoires de cette sélection-là nous font tellement plaisir. Mais de la voir se déchirer comme ça, aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde regarde ce qui se passe dans cette équipe, même si, encore une fois de plus, les résultats ne sont pas mauvais. Mais je trouve qu'en tant que grande personne, il faut s'asseoir, trouver des solutions, que chacun puisse jouer son rôle pleinement pour permettre à cette équipe, de se développer, d'aller à la CAN avec l'intention de gagner. On ne peut pas commencer une compétition avec autant de déchirements, ce n'est pas possible. On n'ira pas loin. Il faut une union sacrée. Et pour ça, bien évidemment, comme j'ai dit, il faut que les parties prenantes, tous ceux qui sont là, qui contribuent de près ou de loin, qui ont un truc à porter, l'apportent pour le bien de l'équipe.
Alors Xavier, on va rappeler les raisons de cette crise qui dure depuis près d'un an maintenant. Conflit entre, on va dire quoi, la FECAFOOT et le ministère des Sports, mais surtout un conflit de personnes.
Oui, entre une rivalité entre le sélectionneur et le ministère des Sports. Le ministre des Sports ayant utilisé la nomination du sélectionneur pour régler ses comptes avec le président de la fédération, en l'occurrence Samuel Eto'o. Donc il y a une querelle d'ego, et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que normalement la fédération tient son pouvoir d'une délégation de service public de la part du ministère. Et là, on voit que les deux personnes ne sont pas alignées, ce qui est quand même dramatique pour la situation de la sélection camerounaise qui en pâtit. Et je trouve, moi, que cette réaction des joueurs est plutôt intéressante parce qu'elle montre qu'ils deviennent actifs, ils deviennent partie prenante en prenant une position très claire dans l'intérêt de la sélection pour essayer de s'émanciper un petit peu de cette querelle de personnes.
Mais donc, ça fait des mois que ça dure. À un moment donné, on avait vu Rémi, les deux hommes, Samuel Eto'o et le ministre, se serrer la main, prenait l'apaisement, on pensait que ça allait se calmer, mais pas du tout. On a l'impression qu'aucun des deux ne veut lâcher là-dessus, parce que ça pourrait presque être dangereux pour la sélection nationale, justement.
Samuel Eto'o et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clan. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Konsé Sao, qui était le sélectionneur, choisi par Moelle Ekambi. Et du coup, Moelle Ekambi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions Indomptables à la CAN. Le président prendant la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, Lorsque la fédération envoie justement les convocations à ces joueurs, ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés, qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala,
on va éviter de rentrer trop dans les détails, mais en fait, qui manipule qui en fait ?
C'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre et n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée.
C'est gardé par... La lettre lue par Vincent Aboubakar, c'est ça ?
Non, c'est Ngandé. Qui oui. avait été écarté de la sélection par Rigobert Song, rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngandé passe l'enveloppe à Vincent Aboubakar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit ? Il demande la réintégration sur le banc
de l'adjoint
de l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur. Mais par contre, le gouvernement, la fédération sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple le Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique.
Il y a déjà des adjoints nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un.
Il ne réclame que celui qui est nommé par, celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant...
Donc ils défendent Marc Brice. On va voir Benjamin, parce qu'il faut... L'affaire n'est pas simple. Hein, donc il ne faut pas essayer de trop noyer...
Parce que là, ça fait réagir. Hein, le Cameroun, c'est le nouveau FC Hollywood, nous dit Michael Tam. Et puis cette question de savoir est-ce que finalement c'était si spontané que ça, la lettre qu'a pu lire Vincent Aboubakar, il pose la question, nos auditeurs. Là, ils aimeraient savoir ce que vous en pensez,
Benjamin.
C'est
sûr qu'effectivement, quand un capitaine s'adresse comme ça au nom de l'équipe, il y a dû y avoir beaucoup de concertation entre les joueurs. Et effectivement, ça peut être rare qu'il y ait une unanimité, peut-être de façade.
C'est clair que dans un groupe, moi, pour avoir eu ce poste de lourde responsabilité, d'autant plus au Cameroun, on a toujours des joueurs qui ne sont pas pour ce qu'on a envie de faire. Malheureusement, l'effet de groupe, c'est-à-dire que la partie dominante, quand on regarde, si vous avez 20 joueurs qui sont pour qu'on le fasse et que vous avez 3 qui sont contre, malheureusement, il faut que tout le monde soit dans le même bateau, que tout le monde suive le mouvement. Mais je pense qu'avant de cette sortie, moi, de ce que je sais, hein, je ne sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire, mais moi, ce que je sais et ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi, tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un problème qui est très complexe. C'est pour ça que moi, personnellement, j'évite de prendre une position ou une autre. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui doit être au centre de tout ça. Il faut que chacun se regarde et qu'on se regarde les uns et les autres, qu'on s'assied autour d'une table et qu'on mette l'équipe en avant.
Mais elle marche bien, l'équipe. Hein. Six victoires, quatre matchs nuls, aucune défaite.
C'est ce que j'ai dit, que si on regarde en thème de résultats, c'est bien. Mais en thème d'image, vous pensez que c'est bien ?
Alors, l'équipe quand même restait sur une mauvaise image. Ce match nul contre Eswatini, qui est franchement une mauvaise opération dans la course à la qualification. Du coup, bon... Est-ce que peut-être les joueurs se sont dit, on va mettre sur le dos de la guerre, du conflit entre les deux pour dire que nous, sur le terrain, du coup, on est contrariés, on n'a pas réussi à battre Eswatini. Ça, c'était en plus à la veille du match capital à Yaoundé face à la Libye, que le Cameroun a remporté. Donc,
sans l'assistant.
Sans l'assistant, oui, qui finalement n'a pas été sur le banc, comme quoi l'appel n'a pas été vraiment entendu. Bon. Mais du coup, les joueurs, bon là, on a l'impression qu'ils ont essayé d'aider leur sélectionneur Marc-Brice, mais ouais, Xavier, est-ce que bon, c'est un peu pour se couvrir aussi un petit peu.
Non, mais il y a quand même une fierté des joueurs camerounais, même s'il y a ces problèmes sur le banc ou dans les coulisses. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils ont envie de gagner, ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde. En plus, ils sont devant leur public. Bon, Swatini, on a remarqué d'ailleurs que lors de cette phase où il y avait deux matchs, les grosses équipes avaient parfois eu un peu de difficulté lors du premier match. L'équipe de France, d'ailleurs, par exemple, de son côté. L'Algérie a eu aussi du mal en Afrique australe. Donc, on voit que le deuxième match, en général, quand il y a quelques jours de plus d'entraînement pour affiner les réglages, les équipes qui ont une qualité supérieure ou considérées comme supérieures l'ont emporté. Donc, du coup, c'est, je pense que l'explication est sportive, mais elle est aussi mentale dans le sens où les joueurs camerounais sur le terrain, ils veulent gagner, ils veulent aller à la Coupe du Monde. Et mais je pense qu'ils font abstraction de ces problèmes pendant 90 minutes.
Oui, est-ce que ça peut gêner? Est-ce que la qualification pour le mondial, elle peut être compromise par ce conflit? C'est le message des joueurs, il dit attention, parce que là, à force de vous chamailler sur le terrain, bah, le rendement, il peut être moins bon.
Effectivement. Je crois que les gens ont oublié d'où nous sortons. Benjamin Moukandjo, quand il gagne la CAN.
On ne fait pas tout de 2017 non, c'est-à-dire, à 2025.
C'est-à-dire que quand il gagne la CAN, c'est parce que justement, il y a moins de problèmes d'égo dans le vestiaire. Il y a moins de stars. Or, il faut se rappeler que les sorties des joueurs aujourd'hui, qu'on est en train de féliciter, le même Samuel Eto'o avait fait presque les mêmes sorties. Ça a conduit le Cameroun où? Coupe du Monde 2014. Samuel Eto'o avait refusé de prendre le drapeau. Je me souviens d'ailleurs que Samuel Eto'o, toujours dans des problèmes avec la fédération, le ministère, il a eu une suspension de 15 mois. Quand on est arrivé au Brésil, parce que les Camerounais étaient comme ça, ils disaient non, c'est comme ça. Bon, on supportait Samuel Eto'o à l'époque, comme on supporte Aboubakar aujourd'hui. Le Cameroun est sorti la queue entre les jambes en 2010. C'était la même chose. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais avec le désordre, le Cameroun était le premier à être éliminé. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de danser parce qu'on est deuxième. Rico Berson avait laissé cette équipe en première position. Le ministre n'avait pas félicité Rico Berson d'avoir eu une qualification pour la Coupe du Monde. Ce ministre-là, alors que le Cameroun n'est pas encore qualifié, félicite Marc Brice. Aujourd'hui, tout ce que je redoute, tout simplement, c'est que les mêmes conséquences produisent le même effet. Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arraché, ou ceci et cela, avec un Cameroun divisé, parce que pratiquement nous sommes en guerre. C'est souvent l'union sacrée. Or, aujourd'hui, au Cameroun, vous trouvez deux groupes. Il y a certains qu'on appelle les Églisiens, qui sont avec Samuel Eto'o, et il y a les Hibou, qui sont avec le ministre. Donc, c'est un état de guerre. Nous sommes en guerre. Et il y a un proverbe africain qui dit: mieux vaut manger les champignons en temps de paix que d'avoir la viande en temps de guerre.
Et Oukabo Tefoya qui apprécie les explications de Rémi. Rémi nous explique si bien la situation. Veuillez le laisser aller jusqu'au bout, s'il vous plaît.
On ne peut pas aller jusqu'au bout de l'émission parce qu'on a d'autres sujets quand même. Il ne faut pas aller tout. Mais pour conclure, Benjamin, vous êtes inquiet pour les Lions justement parce que le Cameroun doit et mérite peut-être d'aller à la Coupe du Monde. En tout cas, l'équipe pour y aller.
Tout comme Rémi, sur ce sujet, je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'ils vont se qualifier. Xavier l'a dit, hein, ils arrivent à mettre ça
de
côté.
C'est le Cap Vert qui est en tête pour l'instant avec un point d'avance.
Oui, après, il y a une confrontation entre les deux nations. Donc, le Cameroun détient encore son destin entre les mains. Je suis inquiet pour la suite parce que je sais qu'on va réussir à se qualifier. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Rémi disait parce qu'on l'a connu aussi. Moi, je l'ai connu en 2014 et les problèmes, on a réussi à se qualifier. Mais une fois qu'on arrive en compétition,
et pourquoi faire
on n'a pas forcément brillé. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je prône à ce que, avant que n'arrive cette CAN qui va arriver très vite, mais qu'on puisse déjà éliminer tous ces problèmes-là et que chacun puisse regarder dans la même direction.
Voilà, parce que le prochain match des Lions Indomptables, eh bien, dans ces éliminatoires, ce sera au mois de septembre à Eswatini. Après, il y aura le choc, justement, face au Cap-Vert. Ouais. Quand même pas facile, ce sera le tournant de ces éliminatoires. Bah, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer dans ce conflit? Bah, ça, c'est comme épisode d'une série.
Il a menacé de partir. Là,
oui, je crois que Marbrice, moi, je crois qu'il va,
non, il faut
il va
pas
plusieurs fois menacer.
Il a menacé de partir. Il est en mission et de toutes les façons, il faut savoir que si Marc Brice veut réussir sa mission, il doit s'inspirer du Belge Hugo Broos, qui a réussi non seulement à ne pas faire qu'il soit totalement sous la domination d'un vestiaire, mais surtout aussi, il peut s'inspirer de Schaeffer. Schaeffer est arrivé, il était calme, il n'est pas entré dans des problèmes d'égo et tout. En 2001, et on a pu constater que non seulement le Cameroun a remporté la CAN en 2002 au Mali, le Cameroun a même été demi-finaliste de la Coupe des Confédérations, battu par la France, et que le Cameroun, même si par la suite le Cameroun a été éliminé en quart de finale en 2004, il est parti, il a laissé une bonne image, mais celui qui est actuellement là, il restera dans l'histoire comme le sélectionneur qui aura le plus divisé le Cameroun.
Gardez un petit peu de salive pour la suite. On pourra en parler des heures de ce feuilleton camerounais. Allez, on va en Argentine, pourquoi pas. Le Stadio Monumental de Buenos Aires était en fête. Mardi dernier, les supporters argentins aux anges, après l'éclatant succès de leur équipe nationale face au Brésil, on a pâli, ça, une fessée, on peut dire, 4-1 infligée au rival de toujours, une Seleção rendue inexistante par une albicéleste au sommet de son art. Bon, on est objectif, hein, technique, créativité, solidarité, efficacité, quasiment tout y était lors de ce match éliminatoire de Coupe du Monde. Benjamin, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans cette formation argentine?
Cette équipe, elle me séduit quand même depuis un moment. Depuis que Scaloni l'a reprise.
Lionel Scaloni, 2018.
On a vu enfin une vraie équipe. Vous voyez, en bon, je ne vais pas faire la comparaison, mais très souvent au Brésil, on a des joueurs, des individualités très fortes. Mais ce que Scaloni a réussi à faire, et c'est là où le mérite lui revient, c'est qu'il a réussi à créer une équipe autour de son capitaine, de son leader, même s'il a été absent dans ce match-là.
Justement, on va en parler de
moi,
ça.
Moi, elle ne m'a pas impressionné uniquement dans ce match-là contre le Brésil. Mais depuis qu'il est là, ces deux Copa América, une Coupe du Monde, c'est une équipe qui est numéro une, je crois, mondiale depuis un bon moment, qui est dans la continuité, avec des jeunes joueurs, avec des joueurs auxquels on ne s'attendait pas. Alvarez, moi, je l'ai découvert pendant la Coupe du Monde, un joueur formidable. Encore une fois de plus, quand moi je vois cette équipe, je sens vraiment la solidarité. On sent quelque chose de conquis, de construit autour de cette équipe, des joueurs qui sont voilà, qui mettent de la hargne, qui mettent des courses. C'est pas très beau à voir à jouer. C'est clair que pour le spectacle, il faut repasser.
Vous avez pas bien vu le match quand même de mardi. Parce
oui, que, non, ce match-là, mais moi je parle de l'ensemble.
Oui,
je parle
toujours
de l'ensemble. Ouais. C'est pas toujours très beau à voir à jouer. Elle me fait penser un peu. Je vais faire réagir Rémi là-dessus au Real. Qui joue pas forcément très bien.
Non, c'est pas.
Qui joue pas forcément très bien.
On y arrive. Mais qui à la fin
remporte quand même les trophées.
C'est plus l'Atlético, hein, puisqu'il y a 6 joueurs argentins dans l'effectif de.
Mais là, ce qu'on a pu remarquer quand même.
Le meilleur buteur de mon club Atlético, nous dit Soumaïla. Ouais.
mais là, effectivement, on a l'impression qu'elle a aucune faille, cette équipe. Le gardien, la défense, le milieu très créatif. Beaucoup de joueurs, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul. Ouais. Et devant, c'est...
Très, très, très créatif, Eric. Je connais votre penchant à Albiceleste.
Eric a des racines argentines, il faut le rappeler,
mais,
en toute objectivité.
J'irai pas jusque-là.
Quand on met 4 buts au Brésil, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas une victoire par accro. Excusez-moi, messieurs.
J'étais en Argentine cet automne et je les ai vus jouer contre le Pérou. Ils avaient gagné 1-0 sur un but
c'était
de Lautaro.
C'était plus compliqué.
Ça avait été plus difficile.
C'était plus compliqué.
Et c'est ça qui est en fait la force de l'Argentine. C'est qu'elle est, vous l'avez rappelé, un super gardien, Dibu Martinez, même si on ne l'aime pas beaucoup en France. Une défense très solide, un milieu de terrain très complémentaire. Et puis devant... L'étincelle, souvent Messi, Lautaro, Julian Alvarez.
Lautaro n'était pas là cette fois-ci.
Et Lautaro et Messi n'étaient pas là. Mais voilà. Il y a le petit nouveau, qu'on connaît
Thiago
un peu en France. Thiago Almada, qui est vraiment un phénomène, qui était dans l'équipe
qui a gagné la Coupe du Monde au Qatar. Mais il était remplaçant. Ouais. Hein, il jouait d'ailleurs aux États-Unis. Il est revenu au Brésil à Botafogo, avec qui il a été champion du Brésil et vainqueur de la Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Et là, il a été transféré cet hiver,
à Lyon.
En fait, il avait été transféré avant. Et là, il a été prêté. Enfin, c'est un petit micmac pour contourner le fair play financier. Bref, c'est un joueur bourré de talent.
Il a mis un but incroyable face à l'Uruguay la semaine dernière.
À Montevideo, il a permis à l'Albi Céleste. Là, il a été aussi très très bon. Et donc,
une passe décisive.
Messi n'est pas là, mais alors, voilà. On tient peut-être, alors pas le successeur de Messi parce que Messi est irremplaçable, mais un nouveau petit génie du foot, comme l'Argentine en produit beaucoup. Et qui peut justement
beaucoup,
apporter...
Mais pas à ce niveau quand même. Hein.
Non, Messi est irremplaçable, je l'ai dit. Mais qui peut apporter cette étincelle qui fait que ce bloc très solide, avec des attaquants hyper performants, des milieux très combatifs,
une
défense imperméable, eh bien il faut toujours ce petit joueur, un peu ce joueur génial qui va apporter, et c'est peut-être lui.
Mais là, ce n'est pas lui qui a fait toutes les passes décisives. Il y a Enzo Fernandez qui a très, très bien joué notamment. Mais bon, l'absence de Lionel Messi, quand même, c'est un fait majeur. On a une Argentine qui surclasse le Brésil sans Lionel Messi. L'Argentine qui se balade totalement, la Messi-dépendance est terminée peut-être pour l'Argentine qui a entamé une transition peut-être. Rémi, c'est peut-être un match charnière, non?
Messi ne jouait pas pour l'Argentine, c'est l'Argentine qui jouait pour Messi. Et ça, on l'a vu par exemple des gardes du corps comme De Paul, qui pratiquement, sa mission était tout simplement de protéger Messi. Donc aujourd'hui, on a vu que cette équipe-là, parce qu'elle est trop battante, parce qu'elle est trop... elle ne lâche rien, parce que quand... Et puis, elle est aussi expérimentée. Hein. Il a parlé d'une équipe jeune, non. Otamendi, quand même, quand vous voyez les Romero, les Tagliafico, tout ça, c'est pas des jeunes. Donc maintenant, vous avez aussi une défense, un milieu de terrain très travailleur. McAllister, c'est quand même un gros travailleur aux côtés de Paul. Et vous avez le petit Paredes qui joue pratiquement comme la charpente. Donc, c'est une équipe qui est très, très dangereuse. Et mais maintenant, bien évidemment, je peux ne pas être fan de Messi, mais je sais quand même que Messi en forme, parce que, voilà, un Messi en forme, un Messi libéré, un Messi électron libre, il ne peut pas être rapidement remplacé en Argentine. Ça, c'est pas possible. Même si Messi, aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il n'est plus le même, il y a beaucoup de blessures, il ne peut plus travailler. Mais il y a un proverbe africain, qui dit que, voilà... Le cheval meurt, sa selle reste, l'homme finit, mais sa renommée survit.
Et Dylan Malanga qui voit bien cette équipe argentine réaliser le doublé. Hein. La Coupe du Monde, tenant du titre,
bientôt,
ils seront difficiles à battre dans
Lionel Messi, qui au sortir de la Coupe du Monde 2022 avait dit « bon là j'arrête » et que 2026 ça m'étonnerait que j'y aille, mais finalement il va y aller. Mais dans quel état là on le voit effectivement être sujet de plus en plus aux blessures. Alors est-ce que là pour Lionel Scaloni, il va pas se dire il vaut peut-être mieux le ménager, je vais le mettre en joker, ou alors je vais pas le faire jouer pareil? Est-ce que justement c'est pas le moment de faire une petite transition, puisqu'on a vu que le reste de l'équipe assurait? Lionel Messi, on va le gérer autrement et il y aura un autre rôle peut-être.
Oui, mais il faut pas qu'on s'enflamme non plus, hein. C'est vrai qu'ils ont joué face à une équipe du Brésil, pour moi, qui n'est plus le grand Brésil que ça a été avant. Aujourd'hui,
c'est
dire
pas
que
Eswatini
l'Argentine,
quand même, hein, oui, mais
aujourd'hui, dire que l'Argentine peut se passer de Messi, moi, j'y crois pas. Peut-être parce que je suis un peu trop fan, j'en sais rien.
Et victoire face à l'Uruguay, face au Brésil, sans Lionel Messi, coup sur coup.
Oui, mais il y a eu d'autres victoires avec Messi aussi, qui étaient beaucoup plus impressionnantes. Pour moi, Messi reste toujours le facteur.
Ouais, pourquoi je suis honnête? Quand Messi n'est pas là, je dis qu'il est important. Mais lui, quand il va prendre la parole, il va dire non, le Portugal, ça joue mieux sans Ronaldo, il faut écarter pour Ronaldo. Mais messieurs, là, jamais on avait vu Messi devant le Brésil prendre une telle avance. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les 5 derniers matchs, on va quand même se rendre compte que le Brésil tenait même parfois 0-0 ou bien 0-1. Mais là, c'est une leçon sans Messi, 4-1. Donc l'Argentine, si je tiens ton raisonnement, joue mieux sans Messi. Messi doit maintenant donc être porteur d'eau, comme tu veux que Ronaldo le soit.
Xavier, la réponse.
Non, surtout pas.
Et on va finir là-dessus.
Messi, de toute façon, c'est un talent, un génie à part du football. L'Argentine a été, effectivement, je partage une partie de l'analyse de Rémy Ngono, la première, pas la dernière. Mais effectivement, il a construit cette équipe autour de Messi, Lionel Scaloni. La Scalonetta, en fait, c'est comment peut-on jouer autour de Messi ? Donc, évidemment que ces joueurs, ils savent jouer ensemble et que c'est un bloc équipe assez extraordinaire. Messi, on ne peut pas le remplacer par un autre joueur, même si Thiago Almada, voilà, encore une fois, a beaucoup de talent. Mais comme ces joueurs, ils ont quand même beaucoup de talent, ils ont un vécu, ils ont tout ce palmarès qu'ils ont construit ensemble, évidemment que Messi retrouvera sa place. Après, il aura 4 ans de plus ou 3 ans et demi de plus. Donc forcément,
il sera un peu moins
tranchant qu'il a pu l'être. Et je pense que c'est une très sage précaution de la part de Lionel Scaloni, justement, de faire jouer son équipe sans Messi.
Parce qu'il n'a pas le choix, attention.
Mais bien sûr, mais pour le cas à la Coupe du Monde, où Messi sera blessé ou fatigué.
Un dernier petit message sur le sujet, là. Amidou Zeibou, merci Benjamin Boukandjo, Messi est bien le meilleur.
Ah oui, bien sûr.
On va rester là-dessus. Ça me plaît.
Oui, mais bon. Ronaldo est bien le meilleur.
Non, je ne vois pas.
Effectivement,
c'est écrit par un certain Rémy Ngono, là. Vos éditeurs.
Et le leader de tous les buts, là, c'est Cristiano Ronaldo. Bon, allez.
Derrière Messi. On parle du PSG.
Ici c'est Paris, mais le Paris Saint-Germain va quitter sa mythique enceinte du Parc des Princes pour s'installer en banlieue. Cette hypothèse, car pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse, circule depuis plusieurs années, mais elle prend corps de plus en plus. Certains médias annoncent même cette semaine que les dirigeants qatariens du PSG auraient acté ce départ et auraient même déjà choisi la ville de Massy, en banlieue parisienne, pour construire le nouveau stade. Nasser El-Khelaïfi veut absolument s'agrandir et ne plus se contenter des actuelles 50 000 places du Parc des Princes, dont le Paris Saint-Germain n'est pas propriétaire. Il en veut 90 000. Xavier, c'est le bras de fer qui dure entre cette fois QSI, le dirigeant qatarien, et la mairie de Paris.
On a parlé de politique au début de l'émission au Cameroun. En France, finalement, c'est pas mal aussi. Le Paris Saint-Germain, enfin le Qatar qui avait été accueilli à bras ouverts par la ville de Paris lorsqu'ils sont arrivés en 2011-2012 et qui maintenant est en conflit parce qu'effectivement, ils veulent être propriétaires du stade et la mairie ne veut pas le lâcher, même si elle leur conseille. Éventuellement.
Ne pas le lâcher à bas prix, en tout cas.
Oui, mais ils ont beaucoup investi dedans. Bref, donc du coup, ils ont dit, puisque c'est ça, on va aller faire notre Disneyland du football autour du PSG.
Qu'est-ce qu'ils voient grand.
Bien sûr, ils veulent un très grand stade, mais aussi tout ce qui va autour aujourd'hui des stades modernes. Donc, pour cela, il faut trouver un endroit. Site. Forcément, le site, ça ne peut pas être dans Paris ou dans les banlieues immédiates. Il n'y a pas la place. Non. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Et on leur a proposé plein de sites. On a parlé de Montigny-le-Bretonneux à l'ouest de Paris. Là, c'est plutôt Massy au sud, qui est un nœud ferroviaire en plus intéressant parce qu'il y a les lignes TGV qui passent. Donc, pour les supporters,
une demi-heure en RER.
Mais par contre, on quitte effectivement
On
n'est plus dans Paris. On quitte le site historique.
Est-ce que le PSG va perdre son âme?
Alors, il y a quand même un élément qu'il faut dire, c'est qu'on ne déménage pas du jour au lendemain pour construire un stade. Alors effectivement, on construit un stade en un an et demi, deux ans, mais en France, c'est très compliqué. Il faut plein d'autorisations. On est dans un pays où il y a beaucoup d'administration, effectivement, donc ça prend 10 ans. Et entre-temps, Madame Hidalgo ne sera plus maire de Paris puisqu'elle ne se représentera pas.
L'an prochain, ce sont les municipales.
Les municipales à Paris. Et c'est possible que ce soit Rachida Dati qui soit maire de Paris avec laquelle le Paris Saint-Germain a de très bonnes relations. Donc je reste encore un peu perplexe sur
mais
cette.
On ne fera jamais du Parc des Princes qui fait 48 000 places, un stade de 90 000 places.
On peut le rénover, on peut mettre des loges, on peut
rajouter 5 à 10 000 places, grand
maximum. Même un peu plus. Il y a un projet qui a été présenté où je crois qu'on arriverait à plus de 60 000 places.
C'est un monument historique, il est classé.
Oui, mais on creuse à l'intérieur, en fait.
Mais Nasser se contenterait de 60 000 places.
Après, voilà, ce sera une discussion.
Qui est valable au Cameroun. Hein. L'hôtel est sous les gradins.
Il réaménagerait l'intérieur en faisant des gradins plus raides.
Comment tu l'as grandi ? Parce que tu as quand même une partie qui est sur le périph.
Non, mais justement, il ferait un dégradin plus raide. Enfin, il y a toute une.
Mais ça serait que 10 000 places supplémentaires et sans la possibilité de faire un centre commercial.
Alors, je vous rejoins, effectivement. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit vraiment partir sur ce nouveau projet extérieur, à l'extérieur de Paris, ou rester attaché à Paris ? Moi, j'ai du mal à l'imaginer hors du Parc des Princes. Maintenant, je peux vous dire qu'au Paris Football Club, qui risque de monter en Ligue 1 au terme de cette saison, avec un nouvel actionnaire, en l'occurrence la famille Arnaud, qui va jouer au stade Jean Moin, qui est juste à côté du Parc des Princes la saison prochaine, s'ils sont en Ligue 1, eh bien, ils sont tout prêts, eux, à venir à leur tour au Parc des Princes.
Une chose est sûre, c'est que si le PSG aujourd'hui veut pas forcément agrandir son stade, mais avoir tout ce qu'il y a autour, il faut forcément un site et il faut de l'espace pour pouvoir construire ça. Là, au Parc des Princes, ce n'est pas possible.
Ouais, mais est-ce si le PSG s'en va, est-ce qu'il ne va pas perdre son âme, tout simplement, en quittant quand même un Parc des Princes qui a une telle histoire?
Être dans Paris, ça fait partie du charme.
Oui, je suis d'accord, mais on a aussi vu des clubs qui ont déménagé. Hein. Lyon a déménagé.
Alors, ça a donné quoi?
Il n'y a pas d'âme à Décines, le stade de Lyon. Vous arrivez, il y a...
On a l'Alliance Riviera à Nice aussi, ça a donné quoi?
On a été tellement habitués au Parc des Princes, et quand on voit tous les grands joueurs qui ont foulé la pelouse du parc, forcément, on s'y accroche, surtout pour les vrais supporters du PSG. Il y a quelque chose de particulier de déménager aujourd'hui, d'aller à quelques kilomètres de là, je trouve
que c'est... Vous comparez avec des clubs français, mais il faut voir ce qui s'est passé dans les grands clubs européens.
Voilà,
c'est
justement,
ça, il y a eu le Bayern a quitté le stade olympique pour aller dans son nouveau stade. L'Atlético a changé aussi.
Le Real Madrid s'est agrandi, son Bernabeu. Le Camp Nou s'agrandit.
United a annoncé qu'ils allaient quitter Old Trafford et construire un nouveau stade
absolument.
Dans les années à venir.
Donc il y a effectivement une tendance lourde à créer des Disneyland du football. Et là où on a un peu de place, donc forcément en dehors des grandes villes. Est-ce que le Paris Saint-Germain va garder son attractivité? Moi, j'habite à Boulogne, donc pas très loin du Parc des Princes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent en voiture ou en RER, qui viennent de banlieue pour voir le Paris Saint-Germain. Donc, ils feront un autre trajet pour aller voir le PSG? Je pense qu'aujourd'hui, le club est suffisamment attractif, effectivement, pour que les gens aillent le voir ailleurs.
Rémi, ça vous plaît?
Si ça leur apportera la Ligue des Champions.
Ça, oui, bon, ça, c'est pas sûr. C'est pas les spectateurs qui sont sur le terrain, en tout cas. Rémi, ça vous plaît, ça, justement, de... Enfin, c'est risqué, peut-être, justement, de changer comme ça l'identité, presque, d'un club. Parce que le stade, ça fait presque partie intégrante de l'histoire d'une équipe, d'un club. Surtout le Parc des Princes. Enfin, pour nous, Français, en tout cas, on se rappelle 1984, l'équipe de France et Platini qui gagne son premier trophée. Mais enfin... Bon, il s'est passé tellement de choses aussi dans ce stade, non?
Ah oui, mais
il faut, pas être nostalgique.
Le Parc des Princes n'a pas été construit pour le Paris Saint-Germain. Quand on est déjà dans les années 1867, quand on construit la première fois ce stade-là, le Paris Saint-Germain n'existait pas. Non. Et puis quand on reconstruit le Parc des Princes en 1967, je ne sais pas, le Paris Saint-Germain n'existait pas. Donc c'est un stade qui, comme le dit Hidalgo, c'est un enfant de la ville, c'est un bébé de la ville, c'est comme ça. C'est que des clubs peuvent naître ici. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que le Paris Saint-Germain ne joue pas clair. Pourquoi? Parce que le Paris loue ce stade-là 2 millions et demi par an. Et on sait quand même, par exemple, que seulement pour la saison 2023, le Paris Saint-Germain a récolté dans ce stade-là plus de 185 millions d'euros de revenus. Ce qui signifie qu'ils font une bonne affaire. Et puis, ils ont dit qu'ils voulaient rénover ce stade-là. Ils ont dit qu'ils ont déjà mis 85 millions dedans. Mais, ils veulent acheter le stade. Ils ont dit qu'ils voulaient acheter le stade à 500 millions. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un problème d'espace. Ils voulaient avoir ce stade-là, ce site-là. Donc, ce n'est pas un problème d'espace qui fait qu'ils puissent vouloir subitement déménager puisqu'ils avaient déjà vu la superficie et tout et tout. Tout le reste, c'est du... Enfin, je ne sais pas comment je peux dire.
C'est quoi, alors?
Non, moi, je crois qu'ils sont en train de vouloir juste pousser la mairie de Paris
pour vendre
pour que ce soit leur propriété. C'est comme ça. Il y a un proverbe africain qui dit « Il faut secouer le manguier pour que le fruit tombe ».
Ah, effectivement. Il peut tomber à un moment donné, s'il est mûr. Effectivement,
ça dépend. Il sera mûr en tombant ou pas,
la patience.
Mais le fait qu'il y ait des élections à Paris l'année prochaine
peut rebattre les
cartes. À mon avis, ça peut changer beaucoup de choses.
Ouais. Bon. De là à vendre le stade...
Ah oui, mais ils ont proposé 500 millions, mais attendez. Vous proposez 500 millions et subitement vous trouvez que le site est déjà petit, non? Et maintenant vous dites que non, on va faire, ça va devenir Massy Saint-Germain. Bon, ok.
Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain ne jouera pas ce week-end au Parc des Princes. Il jouera dans un autre stade mythique, le stade Geoffroy Guichard. C'est vrai, si on disait que les Verts quittaient Geoffroy Guichard, bon, ça ferait peut-être un petit peu bizarre. Mais enfin, bon, en tout cas, ça se jouera demain. Saint-Etienne-Paris Saint-Germain, match de la 27e journée de Liga. Le PSG
peut être champion
en cas de résultats favorables.
À cette journée de la fin.
Des rivaux
tout va bien.
Au mois de mars. Bon. Bref.
Il y avait quand même, en début de saison, dans cette émission, Eric, mais c'était plutôt Annie qui l'animait, des gens qui pensaient que l'OM pourrait empêcher le PSG d'être champion.
Eh ben, on les battra la semaine prochaine, peut-être quand le PSG aura son titre de champion dans la poche. Allez, on passe au carton.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Toujours surprenant et pertinent, voici vos cartons de la semaine. Ils nous viennent aujourd'hui des Comores, d'Angleterre, du Sénégal, du Bénin ou d'Haïti.
Il a bien classé et on a gagné. Papa ciao, papa ciao, papa ciao, ciao, ciao. On monte en puissance, gagne avec aisance. Mondial 2026, nous voilà. Allez, carton vert à papa ciao, qui est en train de faire un excellent travail à la tête des Lions de la Teranga du Sénégal. Oumar Baro, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous.
Moi, c'est Jean, je vous appelle de Londres. Et puis, mon carton cette semaine, c'est carton vert à la compte de Thomas Partey, qui a été auteur de 2 buts contre Madagascar. Bravo à toi. Et c'est une bonne manière pour faire taire les critiques depuis un certain temps contre l'équipe et contre les joueurs aussi. Et comme monsieur Yoram Manga a mentionné la fois dernière, les présidents de l'Afrique reviennent en force. Merci et puis bonne émission.
C'est Diallo Boubacar, depuis qu'on a acquis, je donne aujourd'hui un carton rouge, rouge de colère à la Fédération guinéenne de football qui a décidé de limoger Kaba Diawara. Avec ce coach, on est parti pour la première fois de notre histoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, on est en train de payer les frais parce qu'on ne participera pas à la prochaine CAN et pour la Coupe du Monde, c'est fortement compromis. Comme le dit un proverbe africain, on reconnaît la vraie valeur des gens lorsqu'ils ne sont plus là. Bon café de sport et bon week-end.
Moi, c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant en France. Mon carton, il est vert. Adressé à l'international comorien Rafik Saïd, qui a marqué le but victorieux face au Tchad et qui réalise aussi une saison extraordinaire avec son équipe en 2-2 française. Allez les Verts, on est ensemble. Merci.
Moi, c'est Yannick de Pinjamena. J'adresse un carton rouge à mon pays, le Tchad, les Sao, qui ont été battus par le Ghana 5-0. Mais aussi, je voulais donner un carton rouge à Rémi Gono, qui est un Camerounais et aussi un voisin des Tchadiens, mais qui critique toujours, toujours, toujours et toujours les Tchadiens dans les zones internationales. Rémi Gono, pour faire preuve de sympathie. Merci.
Moi, c'est Gildas Rodigue, analyste sportif depuis le Bénin, précisément dans la ville de Kome. Je voulais donner un carton rouge à Guénot Gros, le coach des Guépards du Bénin et à l'ensemble de son staff technique pour la piètre performance qu'ils nous ont offert lors des précédentes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe doit être dynamique et il doit nous amener des joueurs compétitifs. Merci beaucoup et au revoir.
Bonjour la Radio Foot International. Moi, c'est Christian Amundala depuis la RDC. Je donne un carton jaune à Rafinha pour avoir tenu des propos incendiaires contre l'Argentine. Et c'est ce qui a mené l'échec de son équipe. Ciao, bonne émission.
Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari de Pindamena. Aujourd'hui, j'adresse un carton vert au sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, pour son geste de classe vis-à-vis de Rafinha après le match Brésil-Argentine. Il a tenu à l'encourager et à le réconforter. Et c'est un geste qu'il faut toujours pratiquer dans le football, malgré les divergences. À Rafinha de savoir dorénavant ce qu'il faut dire avant le match, car il ne faut pas vendre la peau du loup sans l'avoir tué. Et les mots sont très, très dangereux. Bon café des sports.
Salut au Café des Sports de Radio Foot International. Je suis Pierre Philos et Fleur. Je vous écoute du côté de Port-de-Paix en Haïti. J'adresse un carton rouge à la Fédération Bolivienne de Football qui a organisé un match de football sur un terrain se trouvant à plus de 4000 mètres d'altitude. Et c'est impossible de jouer au football dans ces conditions-là. D'ailleurs, cette semaine, en l'éliminatoire de la Coupe du Monde, vous avez vu la situation des Uruguayens qui étaient en manque d'oxygène sur le terrain pendant une bonne partie du match. La FIFA doit intervenir rapidement pour corriger cette dérive qui a déjà trop duré. Salut à tous.
Bonjour Radio Foot, Swan de Paris qui donne un carton vert au football, ce merveilleux sport qui nous donne des sensations toute l'année, toutes les générations de tous les continents qui vibrent en même temps, jusqu'à Barça Rémi à la Madrid Xavier.
Le petit, il a son grand box quand même au cas où.
Il est provocateur.
En tout cas, voilà, on nous écoute de 7 à 77 ans, on va dire, et même plus. Le Café des Sports. Rémi, bon, on ne vous laisse pas répondre, ou si vous voulez répondre à cet ami tchadien qui demande plus de sympathie de votre part envers les Sao. Votre carton de la semaine.
Jaune à Eric Schell. Par rapport à ce qui s'est passé, le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria. Parce que là, il se fait égaliser à domicile face au Zimbabwe à la 93e minute. Et ça, c'est régulier. Parce qu'au Mali, il avait des joueurs, mais on a vu, par exemple, en quart de finale contre la Côte d'Ivoire.
Ah, mais la Côte d'Ivoire, c'est toujours spécial.
Mais attendez, il se fait égaliser à la dernière minute. Et il se fait battre, justement, à la prolongation, à la dernière minute. Cela veut dire qu'il ne sait pas gérer les dernières minutes. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il a souvent des joueurs qui sont capables de faire du jeu. Vous ne pouvez pas avoir dans l'équipe du Nigeria Victor Osimhen. Vous avez Lookman, Boniface, vous avez Iwobi, vous avez ceci. Vous êtes à domicile. Et vous voulez conserver un score d'un petit but d'écart. Et finalement, vous vous faites égaliser. Donc aujourd'hui, le Nigeria est en danger. Et il faut maintenant que...
Quatrième. Ils sont quasiment éliminés. Hein.
Ils sont quasiment éliminés. Non, ils ne sont pas encore totalement éliminés. Il faut maintenant qu'ils prouvent qu'il est vraiment un grand entraîneur et qu'il fasse que tous ses joueurs offensifs puissent montrer tout leur talent. Et c'est à lui maintenant de montrer qu'il est un grand entraîneur. Comme le dit un proverbe africain, on juge l'or dans le feu. Et on reconnaît l'homme dans la peine.
Xavier.
Là, je vais donner un carton jaune à une équipe qui n'est pas éliminée et qui, j'espère, va se qualifier, mais qui m'a beaucoup déçu, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé les éléphants très en deçà de ce qu'on attend des champions d'Afrique. La petite victoire contre le Burundi 1-0. Mmh. Contre la Gambie, ils s'en sortent miraculeusement avec une victoire. Les Gambiens ont eu trois occasions incroyables d'égaliser. Mais attendez, les Ivoiriens, vous êtes champions d'Afrique. Vous nous devez beaucoup plus et beaucoup mieux. Et attention au piège contre le Gabon lors du match au sommet au mois de septembre pour assurer la qualification aux États-Unis parce qu'on vous attend là-bas. Donc on attend beaucoup plus du champion d'Afrique.
Ouais, c'est pas l'Argentine, championne d'Amérique du Sud, qui écrase le Brésil 4-1, effectivement. Parenthèse refermée. Benjamin, vous avez un carton ?
Un carton vert. Oui. Un carton vert à une équipe que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Peut-être de par mon rapport particulier avec son sélectionneur, Hugo Broz, je parle notamment de l'Afrique du Sud, qui réalise un bon tournoi de qualification pour la Coupe du Monde, premier de sa poule, dans la même que le Nigeria, qui sont quasiment sûrs de se qualifier. Encore un petit effort, hein, sachant que la dernière participation de cette équipe remonte en 2010, quand elle a organisé cette compétition. Elle a fini troisième de la dernière CAN. Là, elle va participer au mois de décembre, à la prochaine. On sent une certaine forme de continuité. Donc, ils sont allés forcément chercher le bon entraîneur.
Vive Hugo Broz.
Frédéric Chuto.
C'est un carton vert qui ramasse un peu tout ce qui s'est dit durant l'émission. Et là, sur les cartons, avec ces éliminatoires Afrique, passionnant, super série télé, on va dire, 10 épisodes, 10 journées, il en reste encore 4. Mais quand on regarde les groupes, le groupe B, RDC 13 points, Sénégal 12 avec le Soudan, Cap-Vert-Cameroun, on en a parlé, ils sont au coude à coude, Côte d'Ivoire-Gabon, les Gabonais, ils aimeraient bien y aller à la Coupe du Monde, un point de retard seulement sur les Ivoiriens. Ils vont être passionnants jusqu'au bout, ça reprend en septembre, on a hâte d'y être.
Oui, 9 équipes africaines qualifiées, plus peut-être une dixième via les barrages. C'est vrai que cette Coupe du Monde 2026 avec 48 équipes, c'est ça.
48 pays, 104 matchs.
Ouf, ça me donne déjà le tournis. Bref, un grand merci messieurs, c'était très agréable de vous avoir. Les Lions, ça s'est bien tenu quand même, pas trop de graves blessures aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.